Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne vous consulte sur les grandes orientations du SDAGE, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe pour vous permettre de donner votre avis. Ensemble, prenons soin de l'eau. Jean-Luc Roy, vous êtes directeur de l'eau et de l'exploitation à l'établissement public Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement public donc, qui travaille sur le bassin versant de la Loire?
C'est un syndicat mixte qui regroupe 6 régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations de plus de 30 000 habitants et 11 syndicats de communes départementaux sur l'ensemble du bassin de la Loire.
D'accord. Alors en termes d'inondation, que fait le PL?
Alors, en matière d'inondation, l'établissement public Loire gère le barrage de Villeray, qui est un barrage écréateur de crues situé sur la Loire à l'amont immédiat de Roanne, et qui a eu un effet assez important, notamment pour l'écrêtement de la crue de décembre 2003.
Qu'est-ce que c'est qu'un barrage écréateur de crues?
C'est un ouvrage qui sert à retenir la partie la plus forte de la crue, de telle sorte qu'à l'aval, les niveaux de l'eau dans la rivière et aussi dans la zone inondée soit plus faible qu'avant. Voilà, donc ça consiste à stocker une partie de l'eau pendant le passage de la crue et à la restituer ensuite. Villeray, lui, est construit sur le cours d'eau principal, sur la Loire. Il est muni d'énormes vannes qui permettent de laisser passer la première partie de la crue que l'on referme au moment où arrive la pointe de la crue. C'est cette pointe que l'on conserve, d'où le terme écréter la crue. D'autre part, l'établissement public Loire a un centre d'action dans le domaine de la prévention du risque inondation. Il a par exemple développé un logiciel qu'on appelle Osiris Inondation, qui est proposé gratuitement aux maires des communes du bassin pour l'élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde. Et en même temps, il a une action d'accompagnement technique des communes qui le souhaitent pour les aider à réaliser leurs plans communaux de sauvegarde. Il a créé un certain nombre d'outils d'information, un site sur les inondations de la Loire. Et puis, il engage une large action de diagnostic de la vulnérabilité des entreprises vis-à-vis du risque d'inondation. Et puis, il apporte un appui technique direct aux collectivités qui en ont besoin. Il y a beaucoup de communes qui n'ont pas de service technique, qui sont confrontées aux problèmes d'inondation et qui font appel à l'EP Loire pour des conseils, pour de l'expertise, pour savoir comment gérer les dossiers relatifs à ces questions d'inondation.
Comment on peut identifier le risque inondation en Loire?
Le risque inondation sur la Loire, c'est vrai que oui, il n'est pas de même nature sur le haut bassin, sur le bassin moyen, sur le bassin aval. Sur le haut bassin, on a des régimes souvent torrentiels. On est pratiquement dans un système équivalent à celui du Gard, de l'Ardèche. C'est des systèmes cévenols. Et les inondations sont provoquées par des pluies qui viennent de la Méditerranée, qui passent par-dessus les montagnes et puis qui se déversent et qui souvent accompagnent la crue au fur et à mesure qu'elle se forme. C'est ce qu'on a connu en 2003. 2003, c'était donc début décembre, c'était un peu tard dans la saison, mais c'était une énorme crue cévenole qui est remontée jusqu'en Saône-et-Loire. Donc ce sont des crues rapides, ça monte très vite. C'est difficile à annoncer, c'est difficile à prévenir. Maintenant, ce sont des crues qu'on a connues dans le passé et qu'on connaîtra aussi dans l'avenir. Quand on arrive sur l'aval, en Loire-Moyenne, on a l'effet de ces crues cévenoles qui sont des petits volumes, ce sont des gros débits violents, mais des petits volumes, et qui ont tendance à s'amortir vers l'aval et qui peuvent être renforcés donc par des précipitations qui viennent de l'océan. Le schéma d'ailleurs de la grande crue extraordinaire, celle qui frappe les mémoires, c'est des précipitations soutenues pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines sur l'ensemble du bassin, qui viennent plutôt de l'océan, qui saturent les sols, qui provoquent d'ailleurs des crues sur la Vienne et sur la Maine préalablement, et puis un phénomène cévenol qui vient se rajouter par là-dessus, et là on obtient deux crues qui sont sur la Loire et sur l'Allier, qui se rencontrent au bec d'Allier, et qui ensuite donnent les résultats qu'on connaît en Loire-Moyenne. Ça, c'est des phénomènes qu'on rencontre au printemps et en automne, et plutôt en automne, quoique sur la Loire-Moyenne, la plus forte crue, c'est 1856, 31 mai, 1er juin.
Donc on peut dire vraiment que les crues les plus fortes, c'est en Loire-Moyenne?
Oui, c'est la conjugaison des crues de l'Allier et de la Loire. Mais ces crues sont également très fortes sur la Loire Amont et sur l'Allier. Ce qui fait la différence, c'est l'importance des enjeux. En France, on classe toujours les phénomènes naturels par ordre de gravité. On distingue le tremblement de terre sur la Côte d'Azur, la grande crue de la Seine type 1910 et la grande crue de la Loire type 1856, parce qu'elle touche énormément de gens et qu'elle provoque énormément de dégâts. Mais pour le petit village de Haute-Loire qui subit la grande crue, c'est aussi grave. Sauf que c'est l'importance des dégâts qui est différente. Et puis si on va vers l'aval, les crues sont plutôt des crues d'hiver. Décembre-janvier. C'est un phénomène océanique, c'est plus une conjugaison d'une forte crue, mais pas extraordinaire, de la Loire moyenne, enfin formée par l'amont, d'une crue de la Vienne et d'une crue de la Maine. Et là, on a un régime un peu différent. La crue référence au bassin de la Maine, c'est décembre 95, avec des montées très lentes, mais des durées très longues, puisque ça avait duré plus de 3 semaines en 95.
Alors, le risque d'une très très grosse inondation existe toujours.
Ah, tout à fait. En 2003, on n'était pas loin. En 2003, on avait un système météo avec de l'air qui passait sur l'Afrique, une dépression qui tournait sur l'Afrique. Donc l'air se chauffait, traversait la Méditerranée, se gorgeait d'eau et venait déverser sur la Loire. Et là, ça commençait à monter, ça montait. Et puis qui a fini au bout de quelques heures par basculer sur l'ouest et ça s'est arrêté. À partir du moment où la pluie s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Il a suffi que ça dure quelques heures de plus, on pouvait avoir quelque chose d'extrêmement grave en Loire moyenne. Et ça peut se reproduire à tout moment.
Donc globalement, la Loire sur la zone estuaire est beaucoup moins propice à des grosses inondations.
Ah si, elle peut être également inondée, mais ça va être. C'est un autre régime, c'est un régime océanique, c'est plus lent, mais sinon le résultat est le même. Hein, c'est l'eau est large, la Loire a vocation à occuper l'ensemble de son lit, dès lors qu'il y a des digues et qu'il resserre l'écoulement. Elle n'a qu'une envie, c'est de passer par-dessus ces digues. Donc, mais les régimes sont un peu différents. Je vous dis, c'est plus un régime d'hiver. La dernière grande crue qu'on ait connue en Loire-Aval, c'était 1982. L'eau était au ras des digues, elle n'est pas passée par-dessus. Les digues ont tenu. Mais si, y a des zones en jeu très, très importantes aussi en Loire-Aval. Le Val d'Authion d'abord, à l'amont d'Angers, puis ensuite toute la partie de Loire-Atlantique, qui est une zone aussi qui est pleine d'enjeux et également menacée par les crues. Et puis alors il y a notre type d'action qu'on doit mener, c'est se préparer à la crise, parce que inéluctablement l'inondation reviendra un jour, et ce jour-là il faut être prêt. Alors c'est ce que font les services de l'État avec le plan hors sec, ce qu'en font les maires avec les plans communaux de sauvegarde, et puis ce que devrait faire tout un chacun aussi qui vit dans une zone inondable, se poser la question de ce qu'il fera le jour où quelqu'un viendra lui dire il faut s'en aller parce qu'une crue risque d'arriver. Ça, c'est la préparation à la gestion de crise, comme disent les spécialistes. Donc c'est aussi notre voie pour essayer de réduire le montant des dégâts, puis l'importance du phénomène le jour où il se produira.
Donc après avoir longtemps cherché à dompter les rivières, on cherche maintenant à minimiser les conséquences des crues importantes. C'est le concept du vivre avec les crues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept?
Oui, donc jusqu'à la fin des années 90, l'idée générale, c'était l'écrêtement, la protection moyen d'ouvrage. On contrôlait la crue et on pensait pouvoir se développer librement à l'abri de ces ouvrages. La série de graves inondations des années 90 ont amené à un retournement complet de philosophie à cet égard. Et à partir de 94, sur la base d'une circulaire, l'idée qui était mise en place, c'est on cesse l'extension de l'urbanisation en zone inondable, on limite les endiguements de manière à ce que la rivière puisse occuper le maximum de place dans les lits majeurs. Et on engage donc une nouvelle politique et les outils juridiques de cette politique sont venus par la suite pour modifier autant que possible les comportements, les habitats, les pratiques industrielles et agricoles. Il faut sécuriser les réseaux de transport, d'énergie, de personnes, ferroviaires. Il faut à tout moment, au niveau de toute décision, intégrer le risque d'inondation quand on est dans une zone inondable. Voilà, c'est ça l'idée générale. Et laisser autant que possible de la place à la rivière. Plus on laissera de place à la rivière, moins elle montera haut, et moins ces débordements seront dangereux. Voilà, c'est l'idée générale. Bon, c'est une idée ensuite. faut la mettre en œuvre.
D'accord. On va laisser le fleuve envahir son lit. C'est quelque chose de relativement nouveau et c'est lié au fait qu'on s'est rendu compte du rôle écologique aussi des inondations.
Tout à fait, une rivière c'est un dissipateur d'énergie et cette rivière il faut que d'une façon ou d'une autre elle transforme son énergie. Alors elle peut le faire de différentes manières, généralement elle le fait en érodant ses berges et puis en érodant le fond, en creusant de nouveaux lits, voilà. Elle a sa propre vie. Il est clair que si on contrôle cet écoulement de manière trop dure, notamment en bloquant ses possibilités de divagation, cette énergie, la dissiper ailleurs. On l'a souvent constaté, quand on veut bloquer l'évolution d'un méandre, on peut y arriver avec des enrochements, des balles planches et du béton. On peut le faire, il y a des outils pour le faire, mais il est clair que dans ce cas-là, c'est ailleurs que la rivière ira dissiper son énergie et il est impossible de dire comment.
Cette émission vous est présentée tous les mois par SOS Loire Vivante avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donnez votre avis sur l'usage. Un questionnaire vous sera bientôt envoyé chez vous. Ensemble, prenons soin de l'eau.